Direct en jeu, la radio insolite aime bien parler de la vraie vérité. Et là, imaginez, quand on est censé faire des séances de thérapie et qu'on les fait par téléphone, bah oui, c'est ce qui est en train de se passer. Bonjour Jacques.
Bonjour Alain.
Qui es-tu Jacques? Que fais-tu dans la vie?
Alors, qui je suis? Je suis hypnothérapeute et suite d'un burn-out il y a 14 ans en arrière, j'ai connu les vertus de l'hypnothérapie pour régler les problèmes de manque de confiance en soi, de peur, de phobie, de compulsion, d'addiction, de choses comme ça. L'hypnothérapie aide beaucoup à mieux vivre, surtout dans cette période que l'on traverse en ce moment.
Dis-moi, ça fait pas un peu peur l'hypnose ericksonienne, la PNL, programmation neurolinguistique, la visualisation positive, le magnétisme, ça fait un peu peur. On dirait qu'on ne sait pas ce que c'est.
Alors, ça pouvait faire peur, mais ça a toujours existé. En fait, ça existe depuis le temps des Égyptiens. Il faut voir que durant les siècles, on a beaucoup utilisé l'hypnose pour soigner les blessés de guerre sur les champs de bataille, puisque au 19e siècle, les Écossais et Anglais utilisaient l'hypnose pour, pour couper des jambes des blessés sans souffrance. Donc, l'hypnose était déjà dans la médecine, était au parallèle. L'avantage, c'est que depuis quelques années, on a reconnu que l'état d'hypnose est un état du cerveau qui permettait de régler les problèmes avec l'inconscient. Et pour résumer, l'inconscient, c'est notre disque dur. C'est celui qui fait fonctionner 87% du corps. Et 87% du corps, c'est l'inconscient qui, par exemple, quand vous dormez, permet la circulation sanguine, la digestion, la réparation des tissus, etc. Donc, l'avantage, c'est que l'inconscient, quand on lui parle, en faisant taire le conscient, on parle directement au disque dur de notre cerveau pour régler des problèmes. Donc, c'est vraiment efficace.
Alors, quand tu es dans le Vaucluse, tu t'associes avec quelqu'un qui fait de la graphothérapie. Mais oula,
oui.
Oula, c'est du sérieux, là, on ne plaisante pas. Hein.
Alors, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a utilisé ces deux techniques, la graphothérapie et l'hypnothérapie, pour gagner du temps, pour faire en sorte que des jeunes qui ont des problèmes de dysgraphie, de dyslexie, qui ont des problèmes au niveau de l'écriture, qui écrivent mal ou qui n'écrivent pas assez vite ou qui ont des problèmes de retard au niveau de l'école, l'avantage, c'est que cette association de ces deux techniques permet de gagner du temps et les jeunes qui veulent bien le faire sont ravis après cette expérience. C'est efficace.
Dis-moi, 2017, tu étais un peu d'avant-garde?
C'est pour ça que j'ai écrit deux livres.
Le exact.
Que j'ai écrit Hypnose des secrets du bonheur, c'était vraiment pour dire, aux personnes, pourquoi j'ai fait ce cheminement suite à mon burn-out, puisque comme vous le savez, je viens d'événementiel et c'est assez compliqué de passer de l'événementiel à l'hypnothérapie. Beaucoup de gens n'ont pas compris, mais moi j'avais une démarche raisonnée pour faire ça. Voilà.
Alors, le premier livre, il s'appelait comment? Mais surtout, on va parler du deuxième livre parce qu'on est complètement dedans.
Oui, le deuxième livre s'appelle « Comment accepter le changement ». En fait, on est plein dedans, c'est-à-dire face à une situation qu'on ne maîtrise pas, comme c'est ce qui nous arrive en ce moment. On est tous confinés et on est en train de se remettre en question, on se pose des questions. Être enfermé, c'est bien, c'est mal, c'est bien parce que ça permet de remettre les compteurs à zéro, d'analyser, de réfléchir sur le vrai sens de la vie, sur savoir ce qui est important, ce qui n'est plus important, savoir ce qui compte pour nous, ce qui ne compte pas. Et c'est là où on s'aperçoit enfin comme la vie, comme le tourbillon de la vie s'arrête, on réalise enfin les choses qui, pour nous, sont primordiales et celles qui le sont moins. Donc ça, c'est l'avantage de poser les cartes, vous voyez. Et par rapport à ce changement, cette vague du changement, il faut en tirer quelque chose de positif. Alors, l'environnement, je l'ai vu sur des images qu'on a vues tous à la télévision sur Venise. Mmh. Grâce à ça, il y a moins de...
Oula, je suis en train de te perdre, là.
Dans les canaux de Venise. Et là, est-ce que vous m'entendez?
Oui,
là,
ça y est, c'est bon, c'est repris. Vas-y. Donc, tu disais sur Venise.
Et l'avantage, c'est que sur Venise, donc on disait que les canaux, grâce au fait qu'il y a moins de touristes, moins de pollution, ben, les canaux redeviennent clairs, les poissons reviennent dans les canaux et on s'aperçoit que Venise est moins polluée qu'avant. Donc ça, c'est au moins l'effet positif, je dirais, de ce qui se passe actuellement. Il n'y a plus de circulation de voitures. On va voir tout de suite que la pollution va diminuer dans nos grandes villes et sur le territoire. Donc ça, c'est au moins positif. Mais il y a aussi une remise en question personnelle.
Il y a même des images à Pékin qui sont assez impressionnantes, où les gens disent, on voit le ciel bleu, il n'y a plus de pollution. Est-ce qu'on va pouvoir ne pas recommencer ce qu'on faisait avant ? C'est surtout ça la question.
Ben, je crois qu'il y a une prise de conscience collective comme quoi c'est possible de revenir en arrière sur certains points, notamment la qualité de l'environnement, la pollution. Mais il y a aussi des choses qui vont fondamentalement changer parce qu'on va traverser une crise qui malheureusement va être très difficile au niveau économique et social, hein, il ne faut pas se le cacher. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont mal ou qui ont des difficultés de paiement en fin du mois. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de travail, moi le premier, vous aussi. C'est compliqué, donc tout ça va remettre les pendules à l'heure, ça va être difficile, il faut réfléchir à ce qu'on pourrait faire après, par la suite, et ce qu'on ne fera plus. Je crois que c'est là-dessus sur lequel tout le monde a un exercice positif à faire, parce que c'est la fin d'une période, voilà.
Alors, ce qui est important, dans la deuxième partie de ton livre, « Comment accepter le changement », tu dis « La clé est en nous ». Elle est en nous, oui. À titre personnel, ce qui peut paraître étonnant parce qu'on vit quand même en société.
Oui. Bien sûr, la clé est en nous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des rythmes de vie complètement fous sans réfléchir. C'était le boulot, dodo, métro, dans certaines lignes comme à Paris, quand on voit des gens qui faisaient 2 heures de RER par jour, coincés comme des sardines. Est-ce que c'est ça le vrai sens de la vie ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour mieux vivre ? Je crois qu'il y a un certain nombre de questions qu'on va se poser. Il y a des questions sur le plan personnel. On est tous stressés. Le stress entraîne des maladies psychosomatiques qui sont très difficiles à vivre. Psychosomatique, ça veut dire on va vers des addictions, vers des compulsions, vers des maux de ventre terribles. Il y en a beaucoup qui, parce qu'ils sont stressés, ont des maux de ventre. Donc, tout ça fait que... il faut régler d'abord nos problèmes psychosomatiques qui sont liés au stress de la vie et pour ça le lâcher prise, l'hypnothérapie, d'autres thérapies douces peuvent nous aider vraiment à reprendre contact avec son fond intérieur, à mieux vivre tout seul en soi.
Qu'est-ce qu'on trouve sur ta chaîne YouTube ? Parce que j'ai vu qu'il y a quand même des vidéos très très intéressantes sur plein de techniques.
Alors, effectivement, sur la chaîne YouTube de Jacques Marcoux, on trouve des vidéos, des courtes vidéos pour expliquer que tous nos problèmes sont liés à nos pensées négatives, à notre stress. Il faut comprendre que l'inconscient capte tout à longueur de journée. Lui, l'inconscient, il veut vivre des choses simples, faciles, agréables, et on lui fait vivre du stress à longueur d'année. Donc, pour réagir, l'inconscient, il tire la sonnette d'alarme du conscient et il lui dit... voilà, j'en peux plus, je crée une maladie psychosomatique pour que tu puisses réagir. Et si on ne comprend pas le sens des maladies psychosomatiques, on ne comprend pas le message que notre corps veut nous adresser à vivre mieux, plus en paix et plus calme.
Est-ce que ça veut dire que les gens qui ont couru acheter des doliprane par cargaison assez impressionnante, c'est leur méthode pour se soigner, entre guillemets, psychologiquement ?
Ça peut les rassurer, mais ça ne sert à rien. Hein. Vous savez, je crois qu'il faut déjà vivre ce confinement comme une épreuve collective. Tout le monde est confiné, donc on n'a pas le choix. Et puis, c'est le seul moyen pour vivre, pour sauver la société aussi. Donc, il faut faire un effort à la fois collectif. Et puis, on profite de cet effort collectif pour changer de réflexion à son niveau. On a la chance en France quand même d'avoir un système, je dirais, dit social, qui peut nous protéger beaucoup plus qu'en Thaïlande ou qu'en Amérique latine. Ça ne veut pas dire que c'est la panacée, c'est important, attention, ce n'est pas ça. Mais il ne faut pas oublier ça, il y a d'autres pays qui n'ont qu'une protection sociale. L'individu est complètement livré seul à soi-même face à cette pandémie, et ça c'est catastrophique. Hein. Voilà.
Est-ce qu'il y a le truc, dernière question, est-ce qu'il y a un truc incontournable qu'il faut faire ? Il y a une heure à peu près, et c'est déjà en ligne, j'étais avec Émile Thiénot qui donnait ses 5 stratégies, ne pas rester seul, ou en tout cas échanger par téléphone, échanger par les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a vraiment le truc ? Est-ce qu'il faut par exemple faire de l'auto-hypnose, ou est-ce qu'il faut se mettre des notes, des huiles essentielles ?
Alors, il faut en profiter pour réfléchir, pour lire des bouquins qu'on n'a pas lus depuis longtemps, pas des bouquins imbéciles, bien évidemment, des bouquins qui font un peu plus réfléchir. C'est l'occasion aussi de reprendre contact avec des amis qu'on n'a pas vus longtemps, avec qui on n'a pas discuté depuis longtemps, à part des courtes phrases, des textos. Le prendre le temps d'appeler et de connaître les gens en leur parlant plutôt que par SMS, je pense que ça, c'est très important aussi. C'est l'occasion de voir chez soi, de faire le tri dans ses vêtements, dans ses affaires, dans ses papiers, pour voir qu'est-ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Donc, je pense que c'est ça qui est je dirais, important à faire pour ne. En ce moment, voilà, il faut prendre le côté positif, faire le nettoyage, se débarrasser des boulets du passé et envisager des choses positives pour l'avenir, des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire.
Allez, la toute dernière question, c'est ton passé. Tu as travaillé dans l'événementiel, dans la culture. Là, c'est quasiment, ça frise la catastrophe. Toutes les salles de
Oui.
spectacle sont fermées. Le spectacle
Ah bah
vivant,
oui.
ben, c'est. Comment est-ce qu'il peut voir un avenir souriant et positif et ensoleillé?
Alors, c'est vrai qu'on est dans une période, bon, moi je le reconnais que si j'ai quitté le monde de l'événementiel, c'est parce que c'était un monde que je jugeais, à mon avis, un peu trop superficiel, parce qu'on se démenait, on se défonçait, comme on dit. Pour des gens qui voyaient pas tous les efforts que l'on faisait. Donc c'est pour ça que je suis allé vers qui avait plus de sens vers l'événementiel. Quand on voit que les gens vous critiquent uniquement parce que vous avez la nappe est rouge alors que la noire, c'est ridicule. Donc je pense que ça va permettre de remettre le rasoir et voir
Oula, il
vraiment
faudrait
ce
que tu
qui est
te déplaces
important.
légèrement parce qu'on ça décroche un tout petit peu.
Voilà.
Ouais,
Est-ce que
ça y est,
tu
c'est revenu.
m'entends? Voilà.
Vas-y.
Voilà, donc je pense qu'il y a des métiers où on va se voir si ces métiers sont vraiment importants ou pas. On sait que la culture, on en a besoin, mais peut-être qu'il faut la réinventer différemment. Peut-être qu'il faudra la tourner plus vers le grand public, plus vers une comédie dell'arte pour faire passer des messages auprès de la rue. Parce que trop souvent, il y avait aussi une culture élitiste qui coûte très cher et que. Beaucoup de personnes n'ont plus accès. Ça aussi, c'est une question. Quand on voit les coûts d'un opéra à Paris et on voit le peu de personnes qui les fréquentent, est-ce que c'est vraiment important? Je pense qu'il y a des choses à remettre en question.
Et là, en plus, comment dire, avec toutes ces ouvertures, je cite souvent Canal+, OCS, l'Opéra de Paris qui met ses spectacles à disposition gratuitement sur la toile, il y a toute une éducation qu'on va redécouvrir. Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver?
Voilà. Tout à fait. Je pense qu'on va retrouver certaines choses, on va réapprendre à connaître certaines choses. Et je crois que ça fait du bien que la vie s'arrête pour tous en même temps, pour qu'il y ait une remise en question collective sur ce qui est important, ce qui ne l'est pas dans notre société.
Le site internet, donc c'est hypno-lyon.com, c'est ça?
Voilà, exactement. hypno-lyon.com.
Y a une page Facebook?
Oui, Jacques Marcoux, j'ai une page Facebook. Vous pouvez me demander en tant qu'ami, il n'y a aucun problème.
Et puis si je veux, je peux t'appeler et faire du coaching par téléphone, et
Par
l'hypnose par
téléphone, tout à
téléphone.
fait.
C'est
Au
ça?
06 13 50 88 34. Voilà.
Eh bien merci Jacques, bonne santé avant
Merci
tout,
beaucoup
et puis au
et on y
plaisir.
va. On est tous dans le même bain, mais il faut être souple pour prendre cette vague et faire en sorte qu'on puisse prendre du plaisir et non pas qu'on prenne de la peur. D'accord?
Tout à fait. Merci à toi.
Merci, au revoir, merci.